Bonjour et bon sabbat de nouveau. Au camp d'été pour les jeunes, nous venons de rentrer d'un camp d'été pour les jeunes, donc j'ai beaucoup d'idées dans ma tête à propos de ce camp d'été pour les jeunes. Mais les campeurs et le personnel à ce camp d'été étaient appelés à performer à un niveau plus élevé physiquement et mentalement que peut-être le jour moyen. Donc, il faut au camp d'été beaucoup d'énergie pour passer chaque jour à l'extérieur, en passant d'une activité à l'autre. Des activités comme la natation, le basketball, le ultimate frisbee, on dit, et le ballon chasseur, les choses comme ça. Et d'autres activités demandent une intensité d'énergie et peuvent faire brûler beaucoup de calories, beaucoup d'énergie par le corps. Donc, afin d'avoir suffisamment d'énergie pour participer au camp pleinement, les campeurs doivent être bien nourris. Ceux qui ne sont pas bien nourris risquent de manquer d'énergie pour fonctionner pleinement et participer pleinement au camp d'été. Et ça a un impact sur la globalité du camp. Par conséquent, une planification minutieuse avant le camp, ainsi que le travail de plusieurs personnes pendant le camp, pendant chaque jour, on y pense beaucoup, est visé à fournir aux campeurs et au personnel 3 repas par jour, ainsi que des collations et de l'eau en tout temps, disponible entre les repas. Donc, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie dépensée pour s'assurer que les campeurs et l'équipe soient bien nourris. Il est important que les campeurs restent hydratés et bien nourris pendant ces quelques jours. Pour les adolescents, c'est toute une semaine qu'ils passent au camp d'été. Pour les jeunes comme les nôtres, c'était juste à peu près 3 jours et demi. Donc, on avait intention de donner une nourriture de qualité et de bien nourrir ceux qui participent chaque année au camp d'été. Une bonne nutrition peut améliorer les performances sportives, c'est déjà prouvé ça. Une alimentation bien planifiée devrait répondre à la plupart des besoins en vitamines et en minéraux d'un campeur et pouvoir fournir suffisamment de protéines pour favoriser la croissance et la réparation musculaire quand on se met à l'activité intensive. Donc, les aliments riches en glucides non raffinés, comme les pains complets, les céréales, devraient constituer la base de l'alimentation. Et cela permet un accès rapide à l'énergie qu'il vous faut pour participer à ce camp d'été. Lorsque vous rassemblez un groupe de personnes dans un camp, loin de chez elles, sans pouvoir préparer leur propre nourriture, une chose essentielle, c'est de faire de notre mieux pour vous assurer qu'elles soient bien nourries. Le lendemain de la fin du camp, Madame Harper et moi, on était demandé de répondre à un sondage qui contenait plusieurs questions sur ce qui s'était bien passé et ce qui pourrait être amélioré pour les années à venir. Et une chose qui nous est venue à l'esprit, c'est est-ce que la qualité de la nourriture était bonne? On se demandait, on a passé un bon moment à discuter de qualité de la nourriture. Il y en avait de suffisamment de nourriture, mais est-ce que la qualité était bonne? Et ce qui est drôle, c'est que on veillait sur nos 3 enfants qui participaient dans le camp, même si on a chaque enfant avec un groupe d'autres enfants, on mange dans le même bâtiment, on mange dans plusieurs tables différentes, l'équipe mange ici et les campeurs là, mais nous, on observait nos jeunes sortir de la cuisine, de l'endroit où ils recevaient à la cantine, si vous voulez, Et des fois, ils sortaient sans le plat principal. C'était peut-être avec juste le dessert, avec quelques raisins, quelque chose comme ça. Et puis, certains aussi qui sont sortis avec tout, ben, ils le jetaient dans la poubelle après, presque, sans le dessert. Et c'est certain que sans la supervision des adultes, les enfants avaient pris le dessert en premier. Ils avaient pris le dessert en premier. Imaginez-vous. Je pense que c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le camp d'été, hein, en première. Donc, c'est bien passé. Mais juste pour vous dire, il faut veiller sur ces choses parce que c'est pas rien. Il y a un impact sur les campeurs. Sûrement que c'est pas tous les jours que nous y pensons à ça. C'est pas en tout moment. Mais quand il fait chaud, quand on dépense de l'énergie, il faut s'assurer qu'ils soient bien nourris. Que signifie d'être bien nourri? Est-ce que c'est simplement beaucoup consommer? Est-ce que c'est juste manger beaucoup? Est-ce que c'est l'idée de devenir gras? Est-ce que c'est ça, bien nourri? Peut-être pour quelqu'un. Mais la définition du dictionnaire Merriam-Webster est simplement avoir beaucoup de nourriture à manger. Ça, je pense que ça ne répond pas exactement à la détail que je voudrais apporter aujourd'hui. Pour moi, d'être bien nourri, c'est pas simplement une quantité de nourriture devant nous, c'est la qualité et une quantité suffisante. L'expression « bien nourri » est utilisée depuis le 14e siècle, en fait, et ça vient, ces mots-là viennent de l'ancien anglais. Et puis, l'expression est utilisée pour décrire souvent des soldats dans la biographie de Henry Cabot Lodge, par exemple, sur George Washington. Et je donne l'exemple de George Washington parce que je suis américain. J'aurais peut-être dû prendre un exemple comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain. Malheureusement, je n'ai que George Washington à vous discuter avec vous. Mais dans cette biographie, c'était marqué, ils étaient tour à tour mouillés, froids et affamés, ou chauds, secs et bien nourris. Donc, les soldats passaient tour à tour de l'un à l'autre. Et puis, bien nourri ne signifie pas que vous mangez n'importe quoi. Et c'est ça, les enfants avaient besoin, ils avaient accès à cette nourriture, mais ils avaient aussi besoin de le manger et dans l'ordre d'esprit. Dans l'histoire du prophète Daniel, le roi de Babylone conquiert Juda et fait des captifs de la noblesse. Reportons-nous en Daniel chapitre 1. Daniel faisait partie de ceux qui ont été amenés à Babylone pour être, si vous voulez, réaffectés en tant que serviteur, conseiller dans l'administration du royaume, en particulier sur les questions relatives à la Palestine. Et dans Daniel chapitre 1, nous observons quelque chose qui est assez remarquable par rapport à la nourriture que Daniel et ses amis ont consommé, et quelque chose qui aussi a été demandé par l'eunuque qui était en charge à l'époque. Donc, dans Daniel, chapitre 1, commençons avec le verset 3. Et avant de le lire, je peux vous dire que ceci était une pratique assez commune dans le passé, dans le monde antique. C'était commun quand il y avait un concurrent, que le concurrent prenne avec lui des noblesses, des personnes avec de la capacité à gérer, la capacité à mener, et il les prenait pour les convaincre que s'ils étaient humbles, s'ils se soumettaient au royaume concurrent, qu'ils auraient la place, mais qu'ils allaient travailler pour le roi étranger. Donc, c'est ça qui se passe ici. C'est une sorte de replacement ou d'éducation pour servir de cette façon. Puis, au verset 3, le roi donna l'ordre aux chefs de ces eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, c'est intéressant parce que c'est tout un programme, c'est toute une formation, à la fois les lettres, à la fois le régime aussi, c'est supposé, et on peut imaginer qu'il y avait peut-être de l'éducation physique aussi pour les garder en bonne forme. Donc, au verset 5, on peut continuer. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, ce programme était censé de durer 3 ans à peu près pour être rentré dans le service du roi. Et puis, on saute quelques versets pour se retrouver au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souillir par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et on peut imaginer que le roi aurait peut-être bu assez, suffisamment de vin de temps en temps. On peut même imaginer beaucoup de vin dans certains palais royaux du passé. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc c'est Daniel qui demande cette chose. Daniel fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, Daniel n'a pas envie de voir, de consommer ces choses. Il ne veut pas se souiller. On peut imaginer beaucoup de viande impure, beaucoup de choses qui n'étaient pas saines à manger, mais qui étaient peut-être pour les Chaldéens considérées comme délices, comme les Français. Ils aiment beaucoup manger beaucoup de choses que moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on aime manger ces choses-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, vous le savez que des fois on mange des choses assez bizarres en disant « Ah, c'est une délice, c'est une délice ». On peut imaginer que Daniel a réagi parce que dans le palais du roi, on a accès à tout, n'est-ce pas? On a accès à tout. Et c'est sous le règne en France de Louis XIV qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'excès à Versailles. Il y avait beaucoup de repas, beaucoup de choses comme ça qui se passaient tout le jour. Et pour avoir l'œil ou l'oreille du roi, il fallait participer. Et on peut imaginer que c'était la même chose pour Daniel, que c'était une pression de cette administration de pouvoir participer. Donc, ce n'était pas anodin, la demande de Daniel. Donc, on peut aussi lire que Daniel et les autres étaient quand même récompensés par Dieu pour leur fidélité, pour ne pas vouloir se souillir avec les choses qui ont été considérées comme délices par les Chaldéens. Ce n'était pas pour le fait qu'ils n'ont pas suivi un certain régime. Le choix de régime, le choix d'aliment de Daniel jouait sur sa fidélité à Dieu. Et c'est ça qui compte dans cet exemple. C'est que son choix de ne pas manger ces choses, de ne pas boire le vin du roi, jouait sur sa fidélité et démontrait, en fait. C'était un exemple dans le palais du roi de quelqu'un qui allait refuser les mets du roi. Et on sait tous que plus tard dans sa vie, Daniel a gardé le même élan. Il a refusé d'autres choses. Et d'autres qui connaissaient Daniel ont refusé de faire d'autres choses. Donc voilà, c'était pas anodin ce choix. Et ça nous démontre aussi un certain caractère de Daniel qui va jouer, qui va en fait le faire qualifier pour servir Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 12, éprouve On voit que c'était pas juste Daniel aussi, mais peut-être ils avaient une influence les uns sur les autres. Et puis, éprouve tes serviteurs, c'est ce que Daniel dit ici à l'intendant, qui le chef des eunuques avait remis la surveillance. Donc, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et donc, on voit un programme de 3 ans. Et vous voyez cette chose continuer pendant 3 ans. Et pendant 10 jours, il voulait être éprouvé. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Voilà, on te laisse consulter les résultats, on te laisse découvrir les résultats. Et à mon avis, Daniel met ces choses devant Dieu. Il va prier Dieu pour l'aide de faire ce qu'il demande de ces personnes. Donc, continuons juste un petit peu plus. Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. La récompense était de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, tous les autres sujets qu'ils étudiaient et de la sagesse. Donc, il manquait peut-être les mets du roi, mais Dieu leur a donné quelque chose de meilleur. L'intelligence, la sagesse, la science. Donc, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel et ses amis. Ils furent donc admis au service du roi. Donc, au lieu de souffrir et d'être considérés comme les plus bas de l'échelle, ils ont été bien considérés. Des fois, notre dévouement, notre fidélité envers Dieu peut vraiment briller comme un exemple envers d'autres, en particulier quand nous sommes devant la présence d'un roi. Donc, c'est intéressant que Dieu a béni ces choses. Dieu a pourvu à eux, à la fois physiquement et spirituellement, mentalement, quand ils lui ont permis de le faire. Donc, ici, nous avons un très bon exemple de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui voudrait consommer de quelque chose saine d'après les instructions de l'Éternel. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de mets, on ne va pas parler de régime, on ne va pas parler de viande pure et impure, mais on va quand même tisser un petit parallèle pour notre consommation de choses spirituelles, en particulier la doctrine. Ce que nous consommons avec nos bouches, qui va dans l'estomac, c'est quand même important. C'est quelque chose de très important dans notre vie physique. Mais à la fois, nous qui sommes maintenant dans l'Église de Dieu depuis un certain temps, nous devons faire attention à notre consommation spirituelle aussi, n'est-ce pas? Nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est mal à consommer dans ce qui est là devant nous. Et des fois, il y a des buffets sur l'Internet à choisir. Vous pouvez chercher un mot-clé et trouver des choses. Il y a un gros buffet de mets devant vous, mais qu'est-ce que vous allez choisir? Et qu'est-ce que ça fait quand vous choisissez quand nous choisissons quelque chose qui est peut-être pas nourrissant? Donc, reportons-nous maintenant à l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc. J'ai cette question à vous poser avant d'aller plus loin dans ce serment. comment se fait-il que les disciples de Jésus-Christ ne comprenaient pas ces paroles? Comment se fait-il que les disciples de Jésus-Christ ne soient pas capables de comprendre ces paroles? Pourquoi ils avaient de temps en temps, à plusieurs reprises en fait, du mal à comprendre ces paroles? Je vais vous suggérer, je vais vous proposer une réponse déjà et on va l'examiner dans ce sermon aujourd'hui. Je pense que à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup de gens consommaient des choses malsaines spirituellement. Ils étaient donnés à manger, si vous voulez, des choses malsaines spirituellement. Nous pensons, c'était qui préparait le repas spirituel à l'époque? C'était les pharisiens et les scribes. Et le repas, les mets spirituels qu'ils avaient préparés pour consommation à cette époque, avaient quand même beaucoup de choses malsaines là-dedans. Et on peut apprendre de cet exemple en étudiant les évangiles et en étudiant ceux qui suivaient avec les jours, avec les 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ. Donc, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, commençant maintenant avec le verset 14. À mon avis, ils avaient à manger des choses malsaines spirituellement. Et depuis des années, depuis longtemps, on parle de cette période entre les deux testaments, il n'y avait pas de bonnes choses à consommer. C'était devenu corrompu, l'enseignement, la doctrine est devenue assez corrompue. Donc Marc chapitre 8 et le verset 14. Maintenant, on peut se rappeler que juste avant, au début du chapitre 8, nous avons quand même un miracle où nous avons la multiplication de quoi? De quelque chose à manger physiquement, ok? Mais Christ, toujours, il se sert, et aujourd'hui, il se sert de choses physiques pour nous enseigner des principes essentiels au niveau spirituel. Donc, il multipliait les pains pour donner à manger à ceux qui cherchaient à manger, qui avaient quand même quitté leur maison, qui les suivaient dans une grande foule, nombreux étaient-ils, et ils étaient quand même souffrants, ils avaient faim, et on connaît l'histoire que Jésus avait donné plein de choses à manger. Après, ils avaient mangé, on emportait 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? N'oublions pas que dans la Bible, certains passages, quand on va lire un verset, c'est très bien de commencer avec le contexte de ce verset. Donc, le contexte de ce passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est tout ce qui vient de se passer avec la multiplication des pains. Quelque chose physiquement nourrissante, le pain. Ça, à mon avis, peut-être, c'était le pain qui avait un très bon goût. On peut imaginer le pain qui était multiplié par Jésus, que ça soit un pain nourrissant. C'était un pain qui donnait une satisfaction après l'avoir mangé, qui nourrissait ces personnes. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est un miracle très profond. Maintenant, au verset 14. Les disciples avaient oublié, après cet événement, parce que de temps en temps, ils embarquaient dans un bateau pour traverser la mer de Galilée, et donc ils embarquaient partout. Il y avait des petites villes tout autour, et les gens les suivaient jusqu'au bout, et puis ils allaient chercher sur l'autre côté. Donc, les pharisiens les suivaient aussi de temps en temps, et ils voulaient discuter, ils voulaient l'éprouver, ils voulaient éprouver Jésus. Ils voulaient demander un signe des fois. Et ils étaient toujours de logique, celui-là, on ne l'aime pas et on voudrait prouver que lui, il a tort. Donc chaque très bonne chose qui a été faite par Jésus, c'était critiqué par les pharisiens. Et donc, les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc, c'est physiquement, il manquait le pain. Et voilà, Jésus voit une opportunité pour que les disciples apprennent une leçon spirituelle. Okay? En voyant quelque chose qui est arrivé physiquement, il voit une opportunité d'enseigner quelque chose. Et c'est ça. C'est ça le timing, c'est ça le bon moment. C'est ça que nous avons de temps en temps besoin de souffrir un petit peu pour apprendre une leçon spirituelle ou de manquer quelque chose pour que Dieu nous démontre que lui, il peut pourvoir ces choses. Donc après, Jésus leur fit cette recommandation et puis, verset 16, en pensant à ses disciples qui étaient mal nourris depuis longtemps, ils avaient quand même commencé à recevoir de l'instruction de Jésus. Mais depuis des années, les gens de cette région étaient mal nourris. Même les gens de toute la région de Galilée étaient considérés comme des très bas, des personnes qui n'avaient pas de réputation. Et donc même pour les pharisiens, les scribes, ces gens à qui Jésus s'adressait, n'étaient pas bien nourris, y compris des fois ses disciples. Ils avaient toujours des problèmes. On peut dire qu'ils étaient mal nourris et ça a impacté leur perspective. Donc, les disciples raisonnaient entre eux, et en fait, c'est une habitude qu'ils avaient pris aussi, de raisonner entre eux aussi, pour se décider qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que toi, tu as bien compris. On peut imaginer des chuchotés, hein, des chuchotements, mais Jésus le connaissait. Et eux, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est pour ça qu'il a dit, parce que nous n'avons pas de pain. Et puis, verset 17, Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et des fois, on peut quand même rire un petit peu dans la Bible, n'est-ce pas? Ça nous fait sourire. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? C'est un peu critique, n'est-ce pas, les paroles de Jésus envers ses disciples. Mais il continue, verset 19, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? » 12, lui répondit-il. C'est quand bien intéressant qu'ils répondent tous comme des enfants. 12, tout en même temps. Verset 20, « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? » 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? En fait, tout cela, c'était un objectif de leur donner quelque chose de plus profond à considérer que la nourriture physique. Ils voulaient se servir de ce manque physique pour dire, vous n'êtes pas bien nourri spirituellement. Vous devez m'écouter. Vous devez consommer le pain de vie pour devenir bien nourri spirituellement. Mais vous êtes trop occupé avec le physique. Vous, votre souci, c'est de ne pas avoir du pain. Mais vous êtes avec moi et moi, je peux multiplier le pain. Pourquoi souciez-vous du pain physique quand vous avez avec vous le pain de vie? J'insère quelques mots ici, mais c'est ça le résumé de cette pensée à mon avis. Et en même temps, on peut comprendre que eux, ils raisonnaient entre eux. Ils cherchaient leur propre background, leur propre enseignement derrière eux pour comprendre les choses des fois. C'est souligner ici que les disciples n'avaient pas encore intégré les principes, la doctrine de Jésus-Christ, qu'ils avaient entendu, mais ils avaient déjà oublié. Ils avaient besoin de consommer plus souvent et régulièrement la bonne nourriture spirituelle et de ne pas dire « Oh, ça s'est bien passé, très miraculeux, ok, oh, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va faire ensuite, quel est le prochain miracle ?» Et de sauter de miracle en miracle, c'est très fun, mais ce n'est pas le but de l'enseignement de Jésus. Donc, nous verrons plus tard qu'ils se préoccupent de savoir aussi d'autres choses, comme qui serait le plus grand. Est-ce qu'il y a des échos dans cette question de la doctrine des pharisiens? C'était une doctrine qu'ils avaient consommée, ils avaient toujours devant eux. Nous en voyons aussi d'autres préoccupations. Par exemple, l'un qui voudrait que ces garçons soient bien placés dans le royaume. L'idée d'être bien placé dans le royaume, c'était une préoccupation assez importante pour certains de son époque. Donc, on voit aussi quelqu'un qui se demande, c'est qui mon voisin? À qui je dois faire ça? Dis-moi, je vais le faire, et physiquement, ça sera fait. Mais lui, il voudrait donner l'exemple du bon samaritain pour dire que c'est quelque chose de plus, c'est spirituel, cette leçon, de s'occuper les uns les autres. Donc, certaines de ces questions ont-elles surgi? Est-ce que c'est possible que ces questions sont à la base du levain, si vous voulez, si la pâte contient le levain des pharisiens? Et que cette pâte des pharisiens, avec la levure là-dedans, est-ce que c'est possible que partout dans la région de Palestine, c'était un peu répandu? Et est-ce que c'est possible que cette manque de bonne nourriture spirituelle avait causé quand même des maladies, des problèmes, la manque de foi dans plusieurs personnes et aussi une sorte de difficulté à recevoir la bonne nourriture qu'ils avaient devant eux? Les gens agissaient-ils simplement comme des gens normaux ou est-ce que leur modèle d'enseignement leur montrait une sorte de mauvaise voie à suivre? Avaient-ils peur de Jésus pour demander une explication? Est-ce qu'ils préféreraient raisonner d'entre eux? Dans le récit de Matthieu, on voit une explication un peu plus détaillée. Considérons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et le verset 8. J'appuie sur cet exemple un petit peu, mais j'espère que vous allez apprécier ça. Matthieu 16, verset 8. Jésus l'ayant su, de quoi? Encore une fois, on remonte quelques versets, désolé. Mais Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? » Ah, il y avait un manque de foi. « Sur le fait que vous n'avez pas pris de pain, êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers avez-vous emporté? » Et puis, on saute jusqu'au verset 11. « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, Jésus a voulu qu'ils comprennent et ils ont compris que c'était l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà, nous avons une belle réponse à cette question. Pourquoi ils n'avaient pas compris? Et qu'est-ce que Jésus voulait qu'ils comprennent? Mais on peut quand même aller un peu plus loin. Je vous ai donné des grandes lignes pour la doctrine ou la levure des pharisiens, mais on peut aller un peu plus loin. Considérons Matthieu 23. Matthieu 23, c'est un chapitre qui maudit, en fait, et qui critique les pharisiens. C'est une condamnation des scribes et des pharisiens. Et par cette condamnation, nous pouvons comprendre le malheur, le mal que ces enseignements ont pu faire à ces gens de cette époque, de les faire mal nourris, de ne pas atteindre le niveau de dire « oui, on est bien nourri spirituellement ». Et puis, quand on n'est pas bien nourri spirituellement, on souffre, parce que ces gens étaient censés comprendre certaines choses. OK, donc considérons pas tout le chapitre, mais je vous invite chez vous de considérer les différentes condamnations ici dans ce chapitre 23 de Matthieu pour comprendre les malheurs indiqués aux pharisiens en complet. Mais aujourd'hui, nous trouvons quelques exemples dans Matthieu 23 de pourquoi ces enseignements faisaient autant de mal à l'époque. Et pourquoi pour nous, en tant que chrétiens, on soit avertis, en étant avertis, il nous faut une attention très particulière à ce que nous consommons et à qui nous écoutons aussi. Qui est celui qui sert ces choses? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit, qui fait ce qu'il dit? Ou est-ce que derrière, comme les pharisiens, est-ce que c'est de la pure hypocrisie qui est là-dedans? Donc, Matthieu 23 et le verset 10. Matthieu 23 et le verset 10. « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Donc, en même temps, nous avons avec lui ses disciples avec. Et ce sont ses disciples qui sont avec lui quand il dit ces choses. Donc, s'il dit ces choses, c'est aussi un enseignement. Ce n'est pas simplement une condamnation qui n'a pas d'objectif. C'est une condamnation qui, en fait, qui souligne les malheurs qui sont faits par les doctrines et les comportements des pharisiens. Et donc, on a plusieurs exemples. C'est dommage, on n'a pas. On pourrait faire toute une étude biblique là-dessus. Mais aujourd'hui, je me reste sur quelques exemples. Verset 10 ici. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc ici, on touche à l'essentiel de ce discours. C'est un comportement qui contient cette levure. Et depuis les jours des pains sans levain, nous nous souvenons que la levure, ça signifie une sorte, et c'est un péché, mais en particulier, c'est quelque chose qui fait gonfler, n'est-ce pas? Et on dit que c'est quelque chose qui pousse quelqu'un à penser qu'il est meilleur que les autres. C'est l'orgueil, en fait. Le symbole de levure des pharisiens, c'est l'hypocrisie et l'orgueil. Dans les enseignements, on ressent, quand on va lire ce passage, on va ressentir de l'orgueil. Mais Jésus, dans ses paroles, il contredit ces choses. Il veut enlever la mauvaise nourriture de leur bouche et il voudrait le remplacer avec la nourriture saine. Donc, c'est un exemple ici. C'est de s'abaisser au lieu de dire que quand on est nommé, on va s'élever toute seule. Et puis, après, il dit, malheur, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voilà, les pharisiens se sont mis à la porte, si vous voulez. Ils se sont dit, dans une façon hypocrite, que nous sommes les meilleurs, vous n'êtes rien. Et en particulier, ces personnes de cette région de Galilée, excusez-moi. Encore un exemple au verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Encore, on utilise des choses pour l'appétit, pour la nourriture. C'est intéressant, ce thème de ce que nous mangeons. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, c'était pas juste une action, mais c'était le comportement et le cœur derrière de ces actions. Donc, à la fois, ils avaient choisi de se mettre devant tout le monde pour donner des longues prières, et puis à la fois, ils consommaient les maisons des veuves. Ils maltraitaient ceux qui étaient censés de servir. Je ne sais pas s'ils comprenaient vraiment l'idée de service, entre autres. Et puis, sautons quelques versets pour se retrouver au verset 23. Maintenant, encore un malheur, et il y en a d'autres aussi. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, dans leurs enseignements, il y avait un gros déséquilibre. Et ils se servaient de la loi de Dieu pour punir les personnes qu'ils auraient dû servir. C'était une façon mauvaise d'utiliser la loi de Dieu. Et vous voyez comment l'enseignement, comment la nourriture de ce groupe de pharisiens et scribes, qui étaient quand même au pouvoir, comment cette nourriture était très malsaine. Et puis voilà, ce levure des pharisiens est quand même mal vu, et c'est quelque chose que Jésus-Christ voit comme un problème qui doit être éliminé, ou au moins enlevé de cette démonté comme argument, si vous voulez. Il voulait souligner de ne pas suivre ces choses. Parce que si vous imaginez que lui, Jésus-Christ, préparait son Église, il préparait ses disciples pour servir dans l'avenir, il nous prépare aujourd'hui pour servir dans l'avenir et dès maintenant, il ne veut pas que nous voyions une opportunité de servir dans une façon comme les pharisiens. Donc, il démonte ses arguments et souligne ces choses. Des fois, la Bible contient des versets qui sont un peu flous, il faut étudier ces versets pour vraiment comprendre le sens, et c'est nécessaire des fois. Mais ici, au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, quand on dit « malheur à vous », il n'y a aucune question que ça soit mauvaise, ok? Donc, c'est une correction pour eux et un avertissement pour nous aussi, n'est-ce pas? Donc, à qui allons-nous écouter? À qui allons-nous décider? Qui allons-nous suivre dans ce sens-là? Est-ce que nous allons consommer n'importe quel enseignement ou est-ce que nous allons discerner? Est-ce que nous allons faire très attention plutôt comme nous faisons attention à ce que nous consommons physiquement? Si on met encore de l'effort à ce que nous consommons spirituellement aussi, il y aura un impact positif. Et ce sont des encouragements qui reviennent encore et encore, parce que l'idée d'être mal nourri peut empêcher la croissance. Okay? Ça peut empêcher la croissance, ça peut causer des problèmes dans les relations, dans l'Église, dans la famille, dans la vie personnelle. Si on est mal nourri spirituellement, il y a un impact sur nous, sur notre développement, le développement que que Dieu voudrait que nous achevons avec son aide, bien sûr, par son Esprit Saint. Donc, un exemple très répandu, c'est dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Donc, fast forward, si vous voulez, sautons quelques années, et maintenant, beaucoup de choses se passent, et maintenant, nous sommes dans la période de l'Église du Nouveau Testament, donc nous sommes maintenant dans la période où l'Esprit Saint est disponible et où les apôtres vont aller de par le monde pour prêcher l'Évangile, pour baptiser, pour enseigner. Si vous voulez, c'est de la bonne nourriture. Ce sont des bonnes choses. S'ils prêchent l'Évangile, ça veut dire qu'ils vont donner à manger, ils vont prêcher le pain de vie. Mais qu'est-ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 6? Hébreux chapitre 6. Oui. Hébreux chapitre 6. C'est quand même pour nous démontrer qu'il y a un certain développement que Dieu attend de nous. C'est un développement positif. C'est un développement positif qu'il attend de nous. Mais afin d'achever, afin d'accomplir ce développement qu'il attend de nous, il faut notre participation. Il faut que nous fassions le bon choix de ce que nous consommons et aussi il faut que nous abandonnons les vieux principes, les vieilles habitudes, la vieille logique et les mensonges et la convoitise qui existent dans le monde. Il faut qu'on abandonne toutes ces choses. Et puis dans Hébreux chapitre 1, c'est pourquoi les éléments de la parole de Christ tendant à ce que... C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il est souligné ici une sorte de croissance. Quand il dit « laisse ces choses derrière nous », ça ne veut pas dire qu'on oublie tout. Comme les disciples, avez-vous déjà oublié ce que je vous ai enseigné? Avez-vous pas la mémoire pour retenir ces choses? Est-ce qu'on est toujours obligé de reposer le fondement, si vous voulez, de recommencer à zéro chaque année? Est-ce que c'est une croissance durable pour vous? Je crois que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Il nous donne quand même la possibilité de garder, de respecter et de célébrer ces fêtes chaque année, les fêtes de l'Éternel. Ça fait des bons rappels, mais on n'est pas censé recommencer à zéro en tout temps. Et il voudrait de nous une certaine croissance spirituelle. Mais pour accomplir cela, il faut que nous soyons bien nourris. Donc, continuons avec le verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. » Donc, nous avons tous ici, nous avons goûté ce qui est bon. Nous avons goûté la parole de Dieu. On aimerait continuer pendant toute notre vie à consommer la bonne parole et à quand même digérer, à mettre ces choses en pratique dans notre vie. Prenons l'exemple de Pierre, de l'apôtre Pierre. Marc chapitre 8, par exemple. L'apôtre Pierre n'était pas toujours de la bonne attitude, mais Dieu a travaillé avec lui. Jésus l'a condamné, mais il a repenti. Il s'est repenti, excusez-moi. Et il a pu quand même servir l'Église pendant plusieurs années au début de l'Église du Nouveau Testament. Donc, la réaction, c'est assez sévère, si vous vous souvenez, mais c'est quelque chose qui sert à nous dire que l'attitude, le comportement et la doctrine, toutes ces choses vont ensemble. On peut se demander pourquoi Pierre aurait fait ceci, pourquoi Pierre, devant le Maître, le Seigneur, pourquoi dans son cœur il aurait eu cette idée de corriger Jésus-Christ de cette façon. Marc chapitre 8 et le verset 31. Alors Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. On peut dire qu'il avait déjà critiqué, il avait visé ces choses, ces personnes placées, parce qu'il connaissait les cœurs et il savait que la réaction ne serait pas bonne. Mais bon, on est au verset 31. Sacrificateur et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Donc, verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Il parle à ses disciples maintenant. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Quelle est l'attitude de Pierre pour le reprendre? Pierre ne peut pas imaginer de se permettre à son sauveur, son messie, son maître, d'être mis à mort. Pierre, et on voit la réaction bien plus tard, la nuit dans le jardin de Gethsémani, on voit que ça n'a pas empêché cette idée de sortir avec une action aussi. Donc, ici, on voit l'attitude. Je n'ai aucune envie de te permettre de perdre ta vie. Donc, c'est comme il était en désaccord avec celui qui est venu le sauver. Et puis, voilà la réaction de Jésus. Un peu sévère. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Donc, les pensées humaines. Et moi, je me demande, est-ce que ces pensées humaines ont été soulignées, renforcées, augmentées par ces mauvais enseignements, cette nourriture malsaine. Mais ce n'est pas, encore une fois, tout comme à l'évangile de Matthieu, chapitre 23, ce n'était pas juste pour condamner Pierre, mais pour servir comme exemple pour nous tous et les disciples avec lui. Au verset 38, nous avons une explication de ça. Verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, il l'a utilisé pour dire que voilà la vérité. N'ayez pas honte de moi, même si je dois souffrir, même si je suis mis à la mort. N'oubliez pas le plan, si vous voulez. N'oubliez pas l'instruction que je vous donne. Et puis un peu plus loin, on voit cette progression avec la vie des disciples. Ils avaient de plus en plus la révélation de la vérité, mais à chaque pas, quelques jours, on peut imaginer, ou de temps en temps, il fallait que les faux enseignements soient démontés. Il fallait que les choses qui étaient mal apprises, la mauvaise nourriture, il fallait que ces questions soient posées et que la réponse soit donnée. Par exemple, dans Marc chapitre 9, un peu plus loin, verset 11, ils avaient une question. Marc 9, verset 11, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que qu'Élie vienne premièrement? Donc, voyez l'origine de cet enseignement. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Et puis, verset 13, mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Donc, ces choses ont été posées comme questions parce que, ils ne pouvaient pas rectifier, si vous voulez, l'enseignement qu'ils avaient reçu avec la vérité que Jésus les enseignait. Et puis donc, ils partageaient aussi les choses qu'ils apprenaient ensemble avec ceux qui étaient avec eux. Si on va un petit peu plus loin, verset 14 du chapitre 9 ici, « Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule qui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et puis, en quelques lieux qu'il a saisi, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc on voit, ils avaient besoin, encore une fois, de progrès pour accomplir ces miracles. Donc pour faire ça, Jésus a dû répondre au verset 23. C'était un problème avec leur foi, avec leur croyance. Et verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, toi, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est une très bonne phrase ici. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » c'est quelque chose que nous pouvons crier à Dieu de temps en temps aussi. Donne-moi la force dans mon épreuve de ne pas perdre, de ne pas devenir découragé. Et puis, verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, c'est comme ça qu'il a répondu à cette question de foi. Et cette question, ces choses, ces personnes qui souffraient d'être maltraitées, d'être mal nourries, d'être abandonnées par ceux qui étaient censés de s'occuper d'eux. Et puis, les disciples continuaient à voir des miracles, mais de temps en temps, leur focus n'était pas bien placé. Ça veut dire qu'ils avaient à surmonter la nature humaine pour continuer dans cette instruction, pour faire du progrès. Ils étaient obligés de surmonter ces choses. Et c'est pour ça que Dieu nous offre son esprit, parce que nous avons besoin de la force spirituelle à surmonter ces choses. Les mensonges de ce monde, les séductions de ce monde, tout ce qui est distraction, tout ce qui nous empêche, en fait, de croître dans la vérité. Et puis, on revient à cet exemple que je vous ai mentionné. Nous sommes à Marc, chapitre 9 maintenant, et au verset 33, nous voyons un manque d'humilité. Un manque d'humilité. Marc 9, 33, ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Encore une fois, ils avaient pris cette habitude de discuter entre eux. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Bon, est-ce qu'ils étaient basés sur la bonne discussion ou pas? Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Est-ce que, d'après tout ce que nous avons lu aujourd'hui, est-ce que cette question et la réponse de Jésus, est-ce que ça a plus de signification pour nous maintenant de voir le contexte de cette hypocrisie, cet orgueil et les choses qui étaient supposées d'arriver quand on était placé? On voit maintenant avec des yeux clairs l'attitude, le cœur derrière ces questions et ces discussions. Et puis, nous avons cet exemple magnifique. Encore une fois, il se sert de quelque chose de physique. Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et puis, bien, ils continuent de confondre les choses qu'ils avaient entendues. Verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous ne l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répond Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Donc, il continue, mais cet exemple de prendre l'enfant entre ses bras. Et bon, c'est bien plus expliqué, plus détaillé dans l'exemple de Matthieu 18. Aujourd'hui, nous n'allons pas y reporter. Et dans Matthieu 18 et le verset 6, Jésus souligne l'idée de mettre un enfant en péril, de causer un enfant ou un jeune dans l'Église, si vous voulez, un débutant, de les mal nourrir, dans un sens, de les empêcher à croître, que quelque chose qui est très grave. Donc, il nous explique que c'est quelque chose de vraiment grave d'empêcher un enfant à croître. Et dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on la jette au fond de la mer. C'est assez sévère, encore une fois, n'est-ce pas? De temps en temps, Jésus avait réagi sévèrement à certaines choses, en particulier la réaction de ses disciples qui imitaient l'orgueil, l'hypocrisie de ceux qui étaient en charge, les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Donc, Jésus donne la bonne nourriture dans sa parole. Il faut qu'on concentre sur la bonne nourriture. Il faut qu'on soit attentif à ne pas manger n'importe quelle nourriture. Il y a beaucoup de choses là pour nous à manger, mais c'est lui le pain de vie. Les gens vont essayer des fois de tordre ses paroles, de nous convaincre que certaines choses ne sont pas vraies, certaines choses que nous avons déjà apprises. Le lait, comme on a mentionné, ou les choses de base dans Hébreux 6. Certains vont essayer d'attaquer la base, les fondements de l'Église, les fondements de notre foi. On espère de ne pas devoir passer notre temps à lutter, à combattre avec ça. On espère de passer de bons moments et d'avoir de la bonne nourriture et d'aimer et de profiter et de s'amuser à consommer de la bonne nourriture tous ensemble. Plus tard, dans la vie de Pierre et dans le ministère de Jésus-Christ, encore on voit que Dieu, par exemple, Jésus voulait confier à Pierre quelque chose de très important. Dans Jean chapitre 21, Jésus avait envie de confier une tâche très importante à son disciple Pierre. Il voulait, dans ce passage, faire la connexion entre l'amour, l'attitude, le comportement pour empêcher l'orgueil, l'hypocrisie d'entrer dans cette tâche. Mais la tâche, c'était bien de nourrir ces brebis. C'est une tâche qu'on ne prend, il faut prendre cette tâche au sérieux. Il faut prendre cette tâche au sérieux. Parce que nous nourrissons, dans ce cas-là, les tout-petits dont on vient de lire dans les autres passages. Et il ne faut pas les empêcher à croître. Il ne faut pas que notre nourriture, que ce soit les parents, que ce soit dans l'église, pour le ministère, pour ceux qui sont ici, qui vont prêcher dans l'assemblée ou ailleurs, il faut qu'on fasse très attention de ne pas mal nourrir les enfants de Dieu. Il le prend au sérieux. Et cette nourriture est censée d'arriver d'un cœur pur, d'un cœur plein d'amour. Et c'est pour ça que dans Jean 21 et le verset 4, Jésus fait ceci. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et puis, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » OK, c'est comme si je fais des boucles ici, mais je dois insister sur l'importance de se servir d'un exemple physique, d'une opportunité physique pour démontrer une vérité spirituelle. Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» On peut imaginer que ça soit Jean. Il se réfère au disciple que Jésus aimait de temps en temps. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Donc, ils vont prendre le déjeuner ensemble, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est intéressant, c'est un moment intime ici. Et je vais juste sauter quelques versets, parce que dans le contexte de ce que nous venons de lire, encore prenons en compte le contexte, c'était que Jésus donne l'aliment à manger. Si on lui demande, il peut nous indiquer, il peut nous diriger dans ce que nous allons donner à manger. C'est de l'inspiration divine. Et puis au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Moi, je vois un changement de cœur dans l'apôtre Pierre, ici. Je vois un grand changement de cœur dans cet apôtre qui va bientôt, après ce passage, être vraiment important dans le développement de l'Église du Nouveau Testament. Il aurait pu, dans la troisième fois, devenir frustré, corriger le Seigneur, pour dire qu'est-ce que tu fais en me posant ces questions. On voit dans son cœur qu'il était quand même, il était prêt à bien manger, il était prêt à recevoir l'instruction que Jésus le préparait, le donnait. Et il était prêt aussi à recevoir la tâche, d'être confié avec une tâche très importante, de paître les agneaux, de donner à manger, de prêcher devant ceux que Dieu allait appeler pour faire partir de son Église. Voyez, frères et sœurs, c'est un grand changement, mais un changement nécessaire dans le cœur de Pierre afin de pouvoir accomplir ce que Dieu allait faire avec lui. Donc, voilà une importance essentielle de donner de bonnes choses à manger. C'est notre responsabilité dans l'Église de fournir, de paître les brebis, de paître les agneaux. Et c'est sûr que de temps en temps, certaines, tout comme les campeurs avec leurs plats, ils vont refuser de prendre certains aliments. Ils vont refuser, ils vont peut-être prendre les aliments et les jeter dans la poubelle, des fois. Mais la responsabilité de l'Église, c'est de donner la nourriture solide qui vient de la bouche de Dieu, qui vient de la parole de Dieu et qui est inspirée par Dieu. Et donc, nous avons tous une partie, une part dans cette tâche. Si la nourriture est préparée, il faut consommer la nourriture aussi. Mais il faut aussi prendre quand même ces avertissements très au sérieux de ne pas juste manger n'importe quoi. Parce que ce que nous mangeons, ça a un impact sur notre développement spirituel. Voilà, frères et sœurs, nous avons un plat préparé. J'espère que vous allez bien manger. Bon appétit.